Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle Jean-Loup Amsel, anthropologue et ethnologue rattaché au Centre d'études africaines de l'EHESS. Avec lui, nous évoquons le métissage et c'est la deuxième étape d'une semaine consacrée au mélange. Ça commence.
La colonisation, c'est la situation de gens, de cultures qui se haïssent, se combattent, se touchent, s'aiment, partagent entre eux, se détestent, etc. Mais c'est un mélange inévitable dans le monde d'aujourd'hui.
Toutes sortes de déménagements, toutes sortes d'étapes demandent à ce qu'on trie les livres. Quand on a la chance d'en avoir près de soi et d'en avoir beaucoup, c'est un moment potentiellement joyeux qui, sous prétexte de se séparer de quelques-uns, nous en fait ouvrir certains autres qui attendaient là qu'on ait un peu de temps et qu'une brèche existe pour eux. C'est le cas de ce livre paru aux éditions Isabelle Sauvage, d'un seul trait, et sous la forme d'une lettre, Angela Lugrin, enseignante en région parisienne, y écrit à Marie de Pusset, décidément. Elle y parle de la façon dont certains êtres humains nous font une place dans l'apprentissage, certains textes nous font une place dans la littérature, certaines femmes nous font une place dans la féminité, et certaines beautés en appellent d'autres et tendent le doigt vers l'existentiel. Le livre, il s'appelle Marie. Il est signé Angela Lugrin, il est paru aux éditions Isabelle Sauvage. Il est 16h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, un deuxième Polaroid dans le top 3 élaboré par Miss Chanel. Celui-ci date du 8 mars 2011 et on le refait. Vers 16h20, le deuxième temps d'une semaine entièrement consacrée au mélange, après avoir hier parlé du mélange génétique qui nous constitue fondamentalement, nous évoquons aujourd'hui le métissage et ce que recouvre une pensée dite métisse. Vers 16h50, nous écoutons un poème de Piero Bigongiari et à 17h, nous retrouvons les équipes du 5 à 7. En attendant, c'est Romain de Bec-de-Lièvre qui a rencontré la comédienne Delphine Rich pour un ultime déballage de bibliothèque. Aujourd'hui, elle lit à son micro un extrait du Mur invisible de Marlène Haushofer. On l'écoute.
Le 24 décembre fut un jour gris et sans vent. Le matin, je partis dans la forêt avec Lynx et j'étais contente qu'il n'y ait pas de neige. C'était déraisonnable de ma part, mais un Noël sans neige me semblait plus facile à supporter. Les premiers flocons commencèrent à tomber, lents et silencieux, pendant que je parcourais les sentiers familiers. C'était comme si le temps lui-même s'était ligué contre moi. Lynx ne comprenait pas pourquoi je montrais si peu d'enthousiasme à la vue des flocons qui tombaient de plus en plus serrés du ciel blafard. Je m'efforçais de paraître gai pour lui faire plaisir, mais sans succès. Et il se mit à trotter, soucieux à mes côtés, tête basse. Quand à midi je regardais par la fenêtre, les arbres étaient déjà saupoudrés de blanc et le soir, quand je revins de l'étable, la forêt s'était transformée en une véritable forêt de Noël et la neige crissait sous mes pas. Au moment où j'allumais la lampe, il m'apparut soudain que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je fus prise d'un désir irrésistible de capituler et de ne plus m'opposer au cours des choses. J'en avais assez de passer mon temps à fuir et je décidai de faire face. Je m'assis à ma table et cessai de me défendre. Je sentis se détendre la crispation de mes muscles et mon cœur se mit à battre lentement et régulièrement. La simple décision de céder semblait avoir été efficace. Je me remémorais clairement le passé et j'essayais d'être objective et de ne rien enjoliver. Il est très difficile d'être objective en faire son propre passé. Dans cette réalité déjà lointaine, Noël avait été une belle fête mystérieuse aussi longtemps que j'étais restée une petite fille qui croyait au miracle. Plus tard, Noël était devenu une fête joyeuse, à l'occasion de laquelle je recevais des cadeaux de toutes parts et où je m'imaginais être le centre du monde. Je ne songeais pas alors à me demander ce que cette fête pouvait représenter pour mes parents ou pour mes grands-parents. Mais quelque chose de son ancien enchantement s'était dissipé et elle perdait chaque fois un peu plus de son éclat. Plus tard, quand mes filles étaient encore petites, la fête parut renaître. Mais pas pour longtemps, car mes enfants n'étaient pas aussi sensibles que moi au mystère et à l'enchantement. Pourtant, Noël redevint une fête joyeuse où mes filles recevaient des cadeaux de toutes parts et s'imaginaient que tout n'était fait que pour elles. Et d'ailleurs, il en était bien ainsi. Puis très vite, Noël ne fut plus une fête, mais le jour où, par habitude, nous nous offrions mutuellement des cadeaux que de toute façon il aurait fallu s'acheter. À ce moment, Noël était déjà mort pour moi, et pas seulement ce 24 décembre au milieu de la forêt. Je compris que je n'avais cessé de redouter cela depuis que mes enfants n'étaient plus des enfants. Je n'avais pas eu la force de faire revivre cette fête mourante. Et aujourd'hui, après une longue série de veillées de Noël, je me retrouvais seule dans la forêt avec une vache, un chien et un chat, privée de tout ce qui avait été ma vie pendant 40 ans. La neige recouvrait les pins et le feu pétillait dans le poêle, et tout était comme cela aurait dû être dès le début. Sauf qu'il n'y avait plus d'enfants et plus de miracles. Je n'aurais pas à courir des magasins pour acheter des objets inutiles. Il n'y aura pas d'immense arbre de Noël décoré qui, dans la pièce surchauffée, se desséchera lentement au lieu de verdir dans la forêt. Pas d'ange doré et pas de doux leader.
Delphine Rich, vous venez de nous lire un extrait du Mur invisible de Marlène Haushofer. Pourquoi ?
Écoutez, c'était un livre que j'ai lu déjà il y a un certain temps, que j'ai découvert grâce à une librairie allemande qui est dans ma rue. Et cette libraire m'avait vanté les mérites de cet auteur, dont c'est le livre, je trouve, le plus fort. C'est en quelque sorte le journal de bord d'une femme ordinaire qui se retrouve un jour coupée du monde par un mur invisible au-delà duquel toute la vie semble s'être pétrifiée. Elle se retrouve absolument seule dans une forêt, dans un chalet, dans une forêt autrichienne. Et comme une sorte de moderne Robinson, elle va devoir... s'accoutumer à sa nouvelle vie, survivre avec pour seul compagnon un chien, un vieux chat et une vache qui vont être ses seuls compagnons qui vont l'aider à pouvoir affronter cette nouvelle vie, ses intempéries, la maladie, la solitude. Et je trouve que c'est un livre très fort où il ne se passe pas des choses extraordinaires, mais cette femme va se retrouver coupée du monde totalement. Enfin, on n'explique pas tellement ce qui s'est passé, mais... elle se retrouve seule, elle est peut-être la dernière personne à être vivante. Et cette femme qui vient de la ville va se retrouver confrontée à la nature, confrontée à une nouvelle personnalité et à une force qu'elle ne soupçonnait pas. Voilà, c'est toute sa force de survie. C'est un livre aussi qui parle de la solitude, qui parle de la féminité, qui parle de ce qu'on a été avant et de ce que l'on devient. Et on se sans cesse dans ce livre... on se dit « qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Et on s'identifie à ce personnage et je trouve que l'écriture est très belle. On s'attache beaucoup à cette femme, à sa lutte quotidienne pour survivre. Ça se lit aussi un peu comme un thriller. On se demande ce qui va se passer, comment elle va arriver à trouver le courage pour survivre à tout ça, ce qui est absolument terrible parce que c'est une lutte quotidienne.
Et ça fait penser aussi à d'autres livres comme La Route ou de Cormac McCarthy.
Absolument. Sauf que c'est moins sombre. C'est quand même un personnage qui reste calme, qui s'attache à des tâches quotidiennes. Elle découvre des choses chez elle qu'elle n'aurait jamais pu penser faire, comme scier du bois, comme planter des clous, comme traire une vache, comme accoucher une vache, faire des choses inimaginables. La Route, c'est plus... dans mon souvenir, c'était plus sombre. Enfin là, c'est... les nuits sont terribles pour elle, parce que les nuits, d'un seul coup, tout remonte. Mais on est accroché à cette femme. C'est vraiment un roman où on est pris complètement.
Quelle musique vous voudriez faire entendre après ce texte ?
Alors, j'aimerais qu'on écoute Lassa, un morceau que j'aime beaucoup, El Desierto.
He venido al desierto para irme de tu amor. El desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. El desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido en
olvidando me de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
Demain, Delphine Erich poursuit le déballage de sa bibliothèque et nous lira un extrait de « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Et en attendant, Mich Chanel a fait son top 3 des Polaroïdes. Petit rappel, voilà 4 saisons que nous fabriquons, une image par jour, détachée du reste de l'émission, grâce à un texte écrit le matin même, une réalisation sonore et une programmation musicale. Parmi des centaines fabriquées en direct, voici son deuxième choix. Il date du 8 mars 2011 et il avait été dit à l'époque à 6h19 du matin. Une péniche noire de charbon. Noir sur les bords, noir encore, fend l'eau très sombre de la Seine. Rien ne s'annonce du jour qui vient. Rien qui ferait penser que la lumière tout à l'heure viendra claquer sur le fleuve. Rien comme du silence visuel, comme la courbe atone d'un cœur de ville éteint. Seul ce bateau qui avance sans bruit fait plier l'eau sous son poids mais paraît ne la toucher qu'à peine. Il est lent et long. Le charbon qu'il transporte forme une petite montagne sur son dos qui se distingue à peine dans la nuit où tout le monde surnage. Pas un homme à bord. Un homme à bord, bien sûr, mais un homme invisible lui aussi, dont on ne pourrait, au mieux, qu'apercevoir le brasier d'une cigarette et qui, pour l'instant, ne fume pas. Il reste des marins d'eau douce. La péniche baisse la nuque en passant sous les ponts pour que rien ne racle. Pas question de toucher à l'épaisse quiétude. Note épaisse et monocorde, de laquelle émergent des cornes de brume imaginées pour l'occasion, sur une mer que l'on voudrait plus grande encore. Noire en pétrole inoffensif, déchiquetée comme un tableau de Soulage. Sur les bords, la pierre refroidie par la nuit, les mouettes dorment encore. On cherche des yeux celle que l'on connaît, la favorite, la rieuse, celle qui a toujours le plus désobéi. Et quand on la dépasse, silencieuse et discrète, des yeux, on la bénit.
break the silence, go crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? I've wanted, I've needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Pour ce Polaroid refabriqué en direct pour les beaux yeux de Miss Chanel et pour toutes vos oreilles, on écoutait Enjoy the Silence par Sylvain Chauveau et l'ensemble Nocturne. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture et les 16h passées de 19 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le deuxième moment d'une semaine entièrement consacrée au mélange. Hier, nous disions que la génétique est au cœur du vivant et qu'au cœur de la génétique, on trouvait le mélange. Ceci à plusieurs échelles, celle de l'individu évidemment, puis à l'échelle des populations. C'est à cette échelle que nous nous situons aujourd'hui. Récemment défilaient à Paris différentes collections de différents créateurs de mode et on peut affirmer que la tendance mélange des matières est encore très en vogue. Il en va de même pour le mélange des motifs et des imprimés dont Kenzo a par exemple fait sa signature. Voilà quelques années que le métissage s'applique à de nombreux domaines de nos vies, toujours sous un jour positif, créatif, marketing et communicationnel, diraient certains. Seulement parler de métissage, c'est supposer qu'il y ait à une origine de la pureté. Or, nous avons montré hier que de pureté, la nature ne connaissait pas le nom et encore moins l'espèce humaine. humaine. Nous ne sommes qu'une série de métissages opérés à bien des niveaux. Encore cela n'est pas complètement juste. De quoi parle-t-on alors lorsque l'on parle de métissage ? La pensée du métissage convoquerait l'idée d'une culture dominante brassée à une culture considérée moins puissante, et il n'est pas impossible que l'utilisation même du mot métissage rappelle à ce genre de hiérarchie qu'il est impératif de démonter. C'est en tout cas ce à quoi vous arrivez après bien des années de terrain et d'analyse. Jean-Louis Hamsel, vous êtes anthropologue et ethnologue, rédacteur en chef des Cahiers d'études africaines. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Qui utilise le mot métissage au départ ?
Alors au départ, le mot métissage est utilisé d'abord par les médecins du 19e siècle, hein, dont certains sont en faveur du mélange, les mixophiles, hein, et d'autres sont au contraire opposés, les mixophobes, en insistant sur le fait que les mélanges, par exemple entre l'âne et le cheval, donnent des produits stériles comme le mulet, etc. Alors que d'autres, au contraire, vantent les mérites du métissage et du mélange parce que ça produirait des rejetons plus résistants. Le métissage est aussi lié à la problématique, coloniale. Hein. Ça s'inscrit dans une époque qui est celle de la colonisation, notamment des Antilles. On trouve par exemple aux Antilles le terme de métis, mais aussi le terme de créole, qui ne désigne pas d'ailleurs à l'époque des gens mélangés, hein, issus de descendants d'esclaves ou de descendants d'Européens, mais des gens qui sont nés sur place. Hein. Joséphine de Beauharnais, par exemple, est catégorisée comme l'épouse de Bonaparte, est catégorisée comme créole, non pas parce qu'elle aurait des origines différentes, multiples, noires et blanches, mais parce qu'elle est née, aux Antilles. De même, une vache, par exemple, qui est importée d'Europe et dont les descendants sont nés aux Antilles, sont considérés comme créoles, parce qu'ils sont nés sur place.
Ils toujours dans des textes se rapportant à la médecine, ou à la science.
Ou à la science, ou voyage de découverte, simplement. Hein, Alors donc, il y a toute une réflexion sur le métissage, notamment aux Antilles, parce qu'il s'agit de déterminer, si vous voulez, le degré de pureté sanguine des individus, la proportion de sang blanc ou de sang noir qu'ils ont dans les veines. Chez Moreau de Saint-Méry, par exemple, il y a 16 classifications d'individus en fonction de la proportion de sang blanc et de sang noir qui existe chez eux.
Classification qui entraîne nécessairement une hiérarchie à ce moment-là ?
Absolument, oui. Au sommet de la hiérarchie, il y a les blancs et au bas de la hiérarchie, il y a les noirs. Et entre les deux, bon, il y a toute une série de nuances. Et ça, c'est effectivement lié à la question de l'esclavage, parce que bon, il y a un processus aussi d'émancipation des esclaves aussi qui est progressif, enfin, qui est évidemment très limité, mais qui est progressif et qui est fonction de la couleur de la peau ou de degré de mélange supposé entre les différents individus, parce qu'il est bien difficile évidemment de déterminer avec précision quel est le degré de mélange des individus. Et au fond, toutes les classifications raciales conduisent à une aporie, parce qu'on est bien en peine de délimiter des types bien précis et bien distincts.
Et ça, tout de même, la génétique, depuis de nombreuses années maintenant, a tout de même établi la non-validité de quelques théories raciales qu'il soit, puisque dès lors qu'un groupement est défini, il y aura toujours quelque chose à un endroit génétique qui montrera que c'est présent dans un groupement.
Je dirais oui et non. Oui et non, parce que la génétique, effectivement, a bouleversé la vieille anthropologie biologique. Moi, quand j'ai fait mes études, on mesurait encore les tibias, les hyméreus, les crânes aussi.
Pour définir des groupements d'humains.
Oui, absolument. Par exemple, les Tutsis étaient censés être dolichocéphales, avoir le crâne plus long que large, alors que les Hutus étaient censés avoir le crâne, être brachycéphales et avoir le crâne plus large que long. Bon, ça, effectivement, cette vieille anthropologie biologique, avec la distinction entre les différents groupes sanguins qui seraient propres à des populations données, ça a disparu. Mais l'anthropologie biologique actuelle, c'est-à-dire fondée sur les tests ADN, hein, en fait, reproduit d'une certaine façon, même si elle met en cause l'existence des différentes races, il n'y a pas de race, effectivement, mais il n'empêche, par exemple, que les Africains-Américains qui attendent des procès aux héritiers des vieilles maisons de traite qui ont fait la traite esclavagiste entre l'Afrique et les États-Unis, enfin, et les Amériques, Un temps, c'est par exemple à Rockefeller ou d'autres, ou à Morgan, etc., la banque Morgan, en fait, fondent leurs revendications, intentent des procès, fondent leurs revendications et intentent des procès sur la base de tests ADN. Par exemple, il y a un cas d'une africaine-américaine qui a dit « Mais moi, j'intente un procès à la banque Morgan parce que mon test ADN prouve que j'ai du sang qui vient de telle population de Sierra Leone. » Donc, si vous voulez, d'une certaine façon aussi, ça reproduit, sous une forme modifiée, bien sûr, la vieille anthropologie physique, ce qu'on appelait l'anthropologie physique du 19e siècle et du début du 20e siècle.
Ça, c'est un usage de la génétique qui reproduit ça. On peut pas dire que la génétique en elle-même porte, disons qu'elle propose cette utilisation, mais comme propose, n'importe mais quelle science, de toute façon.
Mais il y a quand même, des tests, des gènes qui sont associés à certaines populations.
Bien sûr, et on en parlait, une récurrence de gènes.
Donc, si vous voulez, oui et non. Je dirais que ça transforme les données, mais ça ne les abolit
pas. Mais ce n'est pas une définition de race.
Mais ça n'abolit pas la question de l'origine. Et
exactement.
C'est la question de l'origine qui est pernicieuse.
Et c'est encore une autre question.
Oui, voilà.
Pour en revenir à l'utilisation du mot métissage, après avoir circonscrit la naissance de cette utilisation, vous en faites votre propre utilisation au début de votre carrière d'anthropologue et d'ethnologue. En quoi est-ce qu'elle est intéressante pour vous? En quoi est-ce qu'elle fait sens, cette utilisation, dans le début de votre travail sur le terrain?
Oui, parce que moi, j'ai été le premier à utiliser la notion de métissage en anthropologie. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait mes études à la Sorbonne, il y a fort longtemps, on apprenait, par exemple, que l'Afrique était divisée entre 700 ethnies et autant de langues, et que chaque ethnie avait son système religieux, son système politique, son système économique, etc. Et donc, c'était des ensembles discrets au sens mathématique du terme, c'est-à-dire des véritables monades, des ensembles fermés, clos, entre lesquels il n'y avait aucune communication. Or, quand je me suis rendu sur le terrain, au Mali, j'ai opéré un peu différemment des autres anthropologues. C'est-à-dire, au lieu d'étudier une population dans un village, parce qu'en général, les anthropologues étudient un village et ce qu'ils trouvent dans le village est censé valoir pour l'ethnie dans son ensemble, j'ai étudié une série de populations, les Peuls, les Mambara et les Malinkés, les Sénoufos, les Minyanka, dans le sud du Mali. Et j'ai observé, si vous voulez, qu'on n'était pas de toute éternité Peul, Bambara, Malinké, Sénoufo, Minyanka, mais qu'on le devenait. C'est un peu comme Simone de Beauvoir qui dit « on n'est pas femme, mais on le devient
bon. ». Par des phénomènes de circulation,
De circulation culturelle, si vous voulez, entre ces différents groupes ethniques, puisque un Peul dont le nom de famille est Diakité pouvait avoir comme ancêtre un Sénoufo dont le nom de famille était Konaté, et puis ensuite le descendant de ce Peul Diakité pouvait redevenir ou devenir Malinké et reprendre le nom de son ancêtre Konaté.
Par des unions, encore une fois
Oui, parce que lorsque les gens arrivaient dans une région donnée, ils se mariaient avec des filles du cru et ils adoptaient en général la culture de la région où ils parvenaient. Donc, si vous voulez, et ce qui est vrai pour l'identité ethnique ou l'identité culturelle, c'est vrai aussi pour l'identité politique, économique, religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on disait encore dans les années 60, il n'y a jamais eu de société traditionnelle, que ce soit en Afrique, en Océanie, en Asie ou en Amérique latine. Les sociétés africaines...
Qu'est-ce que vous entendez par traditionnelle?
C'est-à-dire, on décrit en général les ethnies africaines comme étant figées dans la tradition, c'est-à-dire se reproduisant à l'identique au fil des générations, puisque les cadets sont censés, ou les fils ou les cadets sont censés obéir aux aînés et respecter fidèlement la tradition qu'on leur transmet.
Or, en fait, vous observez beaucoup plus de mélange que ça.
Beaucoup plus de mélange et de changement, même à l'époque précoloniale, puisque des sociétés qui étaient des sociétés organisées en clans et en lignages pouvaient devenir des royaumes ou des empires, ensuite retomber d'ailleurs au stade des clans et des lignages, des sociétés qui étaient ouvertes sur la... des sociétés d'autosubsistance s'ouvrir à la petite production marchande et puis ensuite retomber dans l'autosubsistance. Des sociétés qui étaient païennes ou fétichistes ou animistes devenir musulmanes et ensuite retomber dans l'animisme et le paganisme.
Dans quel laps de temps?
C'est évidemment, les gens ne changeaient pas d'identité comme de chemise. Ils ne changeaient pas tous les jours d'identité. Mais disons... Sur un laps de temps de plusieurs dizaines d'années, par exemple, où on peut observer... Enfin, vous savez, c'est des changements très difficiles à observer parce qu'il y a très peu de documents écrits concernant la période précoloniale, la période qui précède l'arrivée des Français. Mais grâce à la tradition orale, au recueil des... des traditions auprès des anciens, etc., on pouvait retracer une certaine évolution de ces sociétés-là qui contredisaient en fait une vision coloniale, justement, ou ethnologique de ces sociétés qui les figeait dans la tradition. La grande opposition de l'ethnologie de cette époque, des années 60-70, c'était l'opposition entre l'Afrique de la tradition et l'Afrique de la modernité. Tradition, c'était les campagnes, les villages, et la modernité, c'est les villes, Brazzaville, Dakar, Abidjan, etc. etc.
Sous-entendu aussi une Afrique qui a été colonisée.
Toute l'Afrique a été colonisée.
C'est-à-dire que l'Afrique pensée comme allant vers la modernité était une Afrique pensée comme ayant joui de la colonisation.
Oui, absolument. C'est-à-dire, dans la modernité, c'était un bien, c'était quelque chose de positif vers laquelle devaient tendre justement les Africains, puisqu'ils étaient censés, surtout dans la colonisation française, ils étaient censés s'assimiler et devenir à terme, bien sûr, des Français, hein, des citoyens français. Bien sûr, c'est pas ce qui a été fait, hein, et les colonisés des colonies françaises, enfin les individus des colonies françaises sont restés des indigènes et sont pas devenus des citoyens. Mais en fait, à terme, c'était ce qui était proposé comme modèle par la colonisation française. Et donc, on distinguait les gens des campagnes, si vous voulez, qui étaient pardonnez-moi l'expression, des ploucs, hein, des paysans un peu abrutis. Et puis, ceux qui passaient par l'école française étaient ce qu'on appelait les évolués. Évoluer parce qu'ils se rapprochaient, si vous voulez, des modèles, des canons de vie occidentaux.
Et vous, à ce moment-là, vous pensez quelque chose de beaucoup moins tranché, de beaucoup moins divisé, de beaucoup moins classifié, en tout cas de beaucoup moins simplement classifié.
Absolument. C'est-à-dire, moi, je me suis posé, si vous voulez, quand j'ai fait mes études, je suivais les cours de Lévi-Strauss, mais aussi de Balandier. Et quand je suis arrivé au Mali, j'ai donné raison à Balandier parce que lui mettait l'accent sur la situation coloniale. Et donc, j'ai récusé le savoir de Lévi-Strauss qui opposait les sociétés froides primitives d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Océanie, aux sociétés chaudes, c'est-à-dire la société occidentale. Sociétés froides, c'est les sociétés qui font tic-tac, hein, qui fonctionnent comme des horloges, donc qui ne changent jamais, donc qui sont figées dans la tradition. Les sociétés chaudes, c'est la société occidentale qui est prométhéenne, c'est-à-dire qui tend vers le progrès, qui tend à se dépasser constamment, qui est tendue vers l'innovation, etc. Or, en Afrique, si vous voulez, même avant la colonisation, on peut dire qu'il y avait des sociétés chaudes et des sociétés froides. Sociétés chaudes, c'était les sociétés étatiques, les royaumes, les empires, etc. Et les sociétés froides, c'était justement les sociétés dont j'ai parlé précédemment.
Mais alors, vous ne récusez pas ça, alors ?
Si, vous dites que ça parce existait. Que pour Lévi-Strauss, c'est une opposition entre l'Occident et les sociétés primitives. Moi, je dis que il y avait à la fois en Afrique avant la colonisation à la fois des sociétés chaudes et des sociétés froides, et que les sociétés froides, c'était les sociétés organisées sur la base du clan, des clans et des lignages, comme les Dogons du Mali, comme les lobbies du Burkina Faso, les Somba du Bénin, etc., etc. Donc des sociétés qui étaient un peu repliées sur elles-mêmes parce qu'elles subissaient la pression des États, des empires, des royaumes, etc. Et c'est là que les empires et les royaumes allaient faire des esclaves aussi dans ces sociétés.
Je crois que le métissage est un problème important dans le monde moderne. Vous voyez le nombre de drames qu'à l'heure actuelle, les contacts entre peuples ou entre communautés ethniques créent dans le monde. C'est un problème auquel personne à l'heure actuelle dans le monde ne peut échapper. Et je crois que les Antilles sont un peu une terre symbolique de ce problème du métissage. Parce que ce métissage a eu lieu, je ne parle pas du métissage racial essentiellement, un métissage culturel. Ce métissage a eu lieu et je crois qu'il faut prendre conscience de ce métissage pour arriver à promouvoir, à louer, à chanter les valeurs qui sont unitaires, qui ne sont pas artificielles, mais qui proviennent d'horizons divers et qui ont été façonnés, maturés, cimentés par un destin commun. Et je crois que c'est toute cette sorte de chimie ou d'alchimie qui s'est faite aux Antilles dans la misère et dans la souffrance et qui font que ces pays, à mon avis, peuvent être exemplaires d'un certain destin moderne de l'homme.
Jean-Louis Amsel, on entend ici Édouard Glissant, il est assez jeune, on est en 1964, en septembre, et on entend le double tranchant du métissage et de ce qui arrivera ensuite à être formulé comme la créolisation. Double tranchant, puisque ce métissage a eu lieu par la force des choses, le dit-il, et on parlait à l'instant de la colonisation, mais on peut parler en effet de chocs très violents entre différentes populations. Il a eu lieu, il a été subi par certains, et ce que propose Édouard Glissant dans cette brève archive, c'est d'acter ce métissage et de pouvoir s'en emparer comme étant quelque chose qui prend de la valeur. Et on entend peut-être dans un premier temps qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a 50 ans, une valeur positive donnée à ce métissage, une possibilité de valeur positive donnée à ce métissage. Pour en revenir à votre parcours, vous finissez par vous éloigner de la possibilité même d'utilisation du mot métissage et aussi de vous éloigner de pensées postcoloniales comme celle d'Édouard Glissant. Pourquoi et par quelles étapes?
Alors, Glissant, commençons par Glissant. Et je crois qu'il faut mettre au crédit de Glissant. Je pense que, de mon point de vue, ce n'était pas un grand penseur, mais c'était un grand poète. Mais il faut mettre à son crédit le fait que, justement... Oui, il n'a pas raisonné en termes de viol. Parce qu'il y a beaucoup de penseurs antillais qui considèrent que la colonisation, ça a eu comme résultat le... le viol des esclaves par leur maître. Et lui, au contraire, il voit dans le métissage, comme vous le disiez à l'instant, quelque chose de positif.
Pas seulement.
Pas seulement, mais aussi quelque chose de positif. Et il y voit une spécificité antillaise qui deviendra plus tard chez lui qui prendra plus tard chez lui la forme de la créolisation, du concept ou de la notion de créolisation. Et au fond, mais ça c'est beaucoup plus tard, c'est dans le traité de la relation, il préconisera qu'au fond, il estimera qu'il est possible d'étendre ce modèle de la créolisation à la planète tout entière soumise à la globalisation.
Alors, mais aussi d'un point de vue théorique, philosophique, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, tout de même, ce métissage et cette créolisation n'est plus pensé en des termes de mélange très, entre guillemets, basique, à savoir des unions entre des hommes femmes qui créent. Il y a aussi une pensée de la créolisation et du métissage qui atteint des pensées théoriques, des pensées philosophiques et plus vraiment des mélanges. Même si voilà, ça peut passer par là, mais voilà, ça passe quand même.
Oui, des mélanges culturels, bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de globalisation. Alors, moi, ce qui me gêne chez Glissant, c'est que c'est pour ça que je disais que c'était pas un grand penseur, parce que d'abord, je pense que l'idée de créolisation n'est pas de lui, mais de Deleuze et de Guattari. En fait, il a emprunté ça à Deleuze, à Guattari, notamment à Émile Platon. Et ce qui me gêne chez Glissant, c'est ce qui me gêne chez Deleuze et Guattari, c'est-à-dire cette idée au fond. Cette idée de l'opposition entre la racine et le rhizome, c'est-à-dire chez Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux font l'éloge du rhizome, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'origine verticale, hein, il récuse le modèle de l'arbre avec ses racines verticales en privilégiant le rhizome avec les racines horizontales. Et au fond, Glissant reprend cette idée en opposant les cultures ataviques et les cultures créoles. Alors la culture créole, c'est les cultures ou la culture antillaise, mais c'est aussi la culture de la globalisation qui résulte, bon, non pas d'union physique, mais de mélange culturel, et donc qui va devenir le modèle prédominant au niveau global. Mais ça suppose pas opposition, par prétérition, si vous voulez, ou par opposition, des cultures ataviques, c'est-à-dire des cultures pures. Les cultures pures qui sont pour lui, bon, par exemple, les cultures africaines, qui sont censées être pures, justement, ou la culture française, hein, qui est censée être pure, parce que les Français sont... Même si les Français ne descendent pas tous de Clovis, ils peuvent se rattacher quand même à une généalogie historique, ou la culture méditerranéenne, qui pour lui est le domaine, comme il dit, le domaine de l'un.
Peut-être on peut parler plutôt de vous, de la façon dont vous commencez à penser autrement le métissage. Puis comme Édouard Glissant n'est en effet pas là pour expliquer la façon dont lui-même pense le métissage, partons de la façon dont vous opérez un virage avec cette notion-là et dont finalement vous le délaissez.
C'est lié. C'est ce que je viens de dire justement sur l'opposition entre racines et rhizomes et puis cultures ataviques et cultures créoles. C'est la raison même Et la critique que je viens d'en faire, c'est la raison même pour laquelle je me suis éloigné de la notion de métissage, qui pour moi, dans un premier temps, était quelque chose de positif, d'ouvert, de généreux, tout ce que vous voudrez, justement par opposition à la critique que j'ai faite d'une espèce d'ethnologie coloniale, qui n'est pas forcément celle des coloniaux, mais des ethnologues de cette époque.
Aux séparations artificielles.
Voilà, de Griol, par exemple, qui est grand spécialiste des Dogons. Même de Georges Balandier, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, c'est la raison même pour laquelle je me suis éloigné de cette notion de métissage, parce que je me suis rendu compte, si vous voulez, que, comme vous le disiez au début, en présentant cette émission, c'est que pour penser le métissage, pour penser l'hybridité, si on prend la terminologie des postcoloniaux américains, d'Homi Bhabha, etc., il faut supposer au départ des entités raciales ou culturelles pures. Hein, pour, comme le montrent les spécialistes de la zootechnie ou de l'élevage, pour avoir des hybrides résistants, il faut sélectionner au départ des races pures. Et bien,
est-ce qu'il est faisable avec des chiens, parce qu'il est possible d'isoler des chiens dans un endroit et les faire se reproduire entre eux pour obtenir une sorte de pureté raciale qui ne sera jamais atteinte finalement génétiquement. Elle sera atteinte théoriquement, on approchera d'une pureté, ce qui n'est pas faisable du point de vue humain, parce que les tares arrivent, parce qu'il n'est pas possible d'isoler quatre humains et les faire se reproduire pendant des années et des années.
Ça a été fait par les nazis, mais sinon, c'est un cas limite.
Mais même ce projet n'a pas été abouti.
Oui, non, bien sûr. Non,
mais il a été entrepris et pensé bien sûr.
Et entamé, mais il n'a pas été... Mais en fait, c'est bien
même
ça.
Même si cette folie était poussée à bout, il supposerait de mettre en place des unions entre un très, très, très petit nombre d'individus pendant de très nombreuses années.
Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, bien sûr, ça n'a pas été... Mais prenons l'exemple de la Finlande, par exemple. La Finlande a une conception... Alors, c'est un pays scandinave, mais qui est assez ouvert à certains égards, mais il n'empêche qu'il pense, disons, l'unité nationale sur le mode de l'anthropologie et biologique, et ils prétendent montrer que les vrais Finlandais, enfin, ce qui correspondrait peut-être à nos Français de souche, hein, les Français de souche de Marine Le Pen, ont des caractéristiques génétiques communes. Et ils disent aussi qu'un vrai un étranger ne peut pas apprendre et parler le finnois, que seul un vrai Finlandais, identifiable selon des procédés génétiques, peut...
Donc, si vous voulez, mais en fait, nous avons tous des caractéristiques génétiques communes, et quand bien même des personnes ont plus de caractéristiques génétiques communes, ça ne dit rien. Finalement, c'est toujours, on en revient au premier point de cette discussion, c'est toujours le fait d'apposer à un regroupement de personnes et un regroupement de qualificatifs ou de caractères communs une valeur et une hiérarchie, c'est à ce moment-là que le bât blesse. C'est-à-dire que supposer que certaines personnes ont des choses en commun et que certaines personnes en ont moins en commun, c'est un constat qui peut s'effectuer de manière plate. C'est dès lors qu'on introduit une hiérarchie que les choses changent.
Oui, mais les deux choses sont liées, si vous voulez. C'est quand on veut montrer qu'il y a des caractéristiques communes, c'est qu'on veut imposer une hiérarchie. Donc c'est pour ça que j'ai renoncé à cette notion de métissage, parce que j'estimais que la notion de métissage était entachée, si vous voulez, d'un défaut ou d'une faute biologique. Et donc, je suis passé à une autre notion, sur la base d'un autre terrain, qui est celle
technique
de branchement,
informatique.
Qui est celle de branchement, qui me paraissait plus neutre parce qu'elle était inspirée de l'électricité et de l'informatique. C'est-à-dire, je considère, au fond, c'est un peu la même idée que j'avais développée dans Logique Métis. C'est-à-dire, je considère qu'il n'y a pas d'identité locale. Il n'y a pas d'identité locale et que l'identité, elle résulte toujours de la torsion, j'ai expliqué ce que j'entends par là, de la torsion de signifiants globaux et de leur transformation ou de leur indigénisation à l'intérieur d'identités locales.
Un petit peu plus concrètement, oui, la torsion.
Alors, si vous voulez, pour se définir, même aux époques anciennes, si vous voulez, on avait recours à un ensemble culturel plus vaste que la culture du coin, du village, du campement, etc., dans lesquels on résidait. Et donc, il y avait tout... Si vous voulez, c'est pour ça que je pense que la mondialisation actuelle n'est pas un phénomène radicalement nouveau, que les gens se sont toujours pensés par rapport à un extérieur englobant plus vaste que la culture de leur petit coin particulier. Mais évidemment, avec la globalisation, avec Internet, avec l'immigration aussi, mais bon, c'est surtout Internet et les médias, enfin la télévision, etc., les gens... En fait, peuvent s'identifier de la façon dont ils veulent. Je vais prendre un exemple concret. Les Afro-Colombiens ou les Afro-Vénézuéliens pour se définir comme étant d'origine africaine, ils ne se réfèrent même pas à l'Afrique, si vous voulez, au continent africain tel qu'il existe réellement. Ils se fabriquent une identité africaine ou afro-colombienne ou afro-vénézuélienne en se référant à des séries télévisées comme Chaka Zulu qui relate les exploits de l'empereur sud-africain Chaka, etc. Vous voyez, donc c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'identité locale, il n'y a pas d'identité française, fût-elle malheureuse, si vous voulez.
La France est de moins en moins capable de revendiquer son identité. La France est confrontée, comme le reste de l'Europe occidentale, à un immense problème qui est le problème de l'immigration. C'est un problème quantitatif. L'immigration est de plus en plus massive et c'est un problème civilisationnel. Parce que les immigrés d'aujourd'hui, à la différence des immigrés d'hier, ne se sentent pas tenus, pour une certaine partie d'entre eux, de respecter les normes, les règles, les valeurs, les traditions, les idéaux de la société qui les accueille. Mais la France, ou toute une partie de l'élite française, réagit à cette situation de manière étrange, en faisant, et c'est pathétique, l'apologie du métissage. C'est par le métissage qu'on va régler la question. Donc, les valeurs, les façons d'être, les styles, vont en quelque sorte se mélanger et de ce mélange naîtra une civilisation heureuse. Le métissage comme clé, comme horizon de vivre ensemble. Et de façon plus étrange encore, ce métissage n'est pas seulement pensé comme horizon, il est aussi pensé comme origine. On nous explique que la France a toujours été un pays métissé, que le métissage est inhérent à la France, à l'Europe, à la culture occidentale en général, que la France n'est pas un peuple, mais a toujours été un conglomérat de peuples. Historiquement, cela n'a strictement aucun sens, mais c'est aussi une façon pour la France, en quelque sorte, de se dévaloriser elle-même. Au moment où son identité se défait sous les coups peut-être des nouvelles technologies, une grande mutation technique, eh bien, l'élite contribue à ce phénomène, l'aggrave et l'accélère encore en dissolvant tout ce qui reste d'identité dans ce concept étrange, omniprésent, mensonger de métissage. Et je comprends que dans un tel contexte, où le mensonge idéologique le dispute à la déculturation, la France soit aujourd'hui beaucoup moins attirante qu'elle a pu l'être autrefois.
Jean-Louis Hemsel, vous offriez tout à l'heure une transition toute trouvée en disant, mais y compris s'il n'y a pas d'identité, qu'il n'y ait pas d'identité française, y compris malheureuse, transition toute trouvée pour entendre la voix d'Alain Finkielkraut, ici une prise de parole publique en 2011, puisqu'à la lecture de vos différents textes, on trouve des endroits où vous rejoignez cette certaine critique du métissage à des endroits, par exemple, de marketing joyeux du métissage, d'une communication accrue et politisée du métissage, point de rencontre avec la pensée exprimée ici d'Alain Finkielkraut, qui parle d'une dévalorisation, c'est-à-dire on applique au métissage ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir deux choses qui se rencontre et qui, en se rencontrant, fabrique quelque chose de moins bien qu'au départ. En quoi votre pensée se dissocie, là, même plus d'Edouard Glissant, mais d'Alain Finkielkraut ?
Alors, moi, je crois que, d'une part, au fond, Finkielkraut reprend les vieilles idées du 19e siècle, et de Gobineau en particulier.
En quoi votre pensée sépare
écoutez,
de celle
Il faut bien que j'explique quand même en quoi je m'oppose à Finkielkraut, qui est pour moi un penseur d'extrême droite, enfin très proche du...
On vient de l'entendre, c'est peut-être pas la peine de...
Du Front National, non, mais je le dis parce qu'il faut le dire. Je sais bien, écoutez, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, il a une émission sur France Culture, il est à l'Académie française. Bon, je crois qu'il faut aussi entendre, pouvoir entendre un contre-discours.
Justement.
Non, mais moi, donc, si vous voulez, moi, il me semble que le discours, ce type de discours reprend la vieille rengaine de Gobineau, de l'abattardissement de la culture occidentale sous le coup des invasions barbares, enfin, disons, du mélange avec les races asiatiques, noires, cuivrées, tout ce que vous voulez, etc. Mais ce qui voulait, moi, en fait, ce qui me fait, je suis à la fois opposé au métissage et à la pureté, si vous voulez. Bon, c'est ça, c'est en ça que je crois que ma position est originale. C'est-à-dire, au fond, moi, je pense que ce sont deux positions symétriques et inverses. Et donc, au fond, la critique de Finkielkraut rate son but parce que, en fait, moi, je suis contre l'idée de cette pureté transhistorique de l'identité française, qui pour moi est un fantasme, parce qu'il y a toujours eu des juifs, il y a toujours eu des musulmans en France. Les historiens l'ont montré. Mais je suis également opposé à cette idée de métissage, qui au fond n'est qu'une reproduction sous une forme transformée de cette idée de pureté originaire.
Pour vous, finalement, il n'y a pas tellement de différence entre la pensée de la pureté et la pensée du métissage.
Voilà, exactement. Je trouve que ce sont deux idées symétrique et inverse, et donc il faut renoncer à ces deux idées et pour passer à autre chose, pour montrer justement que, comme je le disais précédemment, l'identité c'est quelque chose qui est plus vaste toujours que l'identité française, c'est aussi, si vous voulez, la façon de se référer à des choses qui se passent aux États-Unis, en Russie, en Afrique ou en Amérique latine pour se constituer sa propre identité. Et donc, c'est pas la peine de fantasmer sur la déperdition culturelle de l'identité.
Ni de fantasmer, si on vous écoute, sur un accroissement par le métissage. C'est-à-dire que vous dites à la fois, c'est pas la peine de crier, d'une part, et c'est pas la peine de fantasmer sur un accroissement, quelque chose de bénéfique qui viendrait du métissage, tout comme ce n'est pas la peine de fantasmer sur un abattardissement qui viendrait lui aussi du métissage.
Absolument, je crois que c'est surtout, si vous voulez, toutes ces pensées finalement qui a une base raciologique, qu'il s'agisse du versant de la pureté
et identitaire,
qu'il s'agisse du versant de la pureté ou du versant du métissage, a pour effet, en tout cas, je dis pas qu'elle a pour fonction de masquer une analyse en termes sociaux, en termes de groupes sociaux, en termes de classe sociale. Pourquoi ne pas le dire? Parce qu'au fond, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est pas tellement la question de la pureté et du métissage, c'est qui utilise ces notions et dans quel but et pour quel profit. Parce que c'est en réalité discuter de ça, si vous voulez, dans l'abstrait, à mon avis, ça n'a pas tellement de sens. Il faut montrer en quoi, si vous voulez, ces notions, ces concepts, par exemple, la notion de métissage, elle est opératoire dans le cadre du multiculturalisme, dans le multiculturalisme qui est tout à fait cohérent et avec l'ultralibéralisme.
Bon, ce que vous expliquez aussi, c'est que finalement, la possibilité de se mélanger et la possibilité de tirer un profit intellectuel, social, de représentation sociale, est une possibilité luxueuse, en
Absolument.
Tout cas une possibilité de la classe entre guillemets dominante. Vous dites, pour tous ceux qui pensent autrement leur position sociale et économique, presque la pensée du mélange n'existe pas.
Alors, pour les populations, disons, du Sud, le métissage, c'est pas quelque chose qui est revendiqué. Bien au contraire, c'est la pensée de la pureté qui est revendiquée, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Océanie ou en Asie. Mais il faut voir aussi que cette pensée de la pureté... Prenons l'exemple de la Bolivie, par exemple, où j'ai passé quelques temps, voici quelques années, lorsque je faisais mon livre sur le postcolonialisme. Eh bien, si vous voulez, la façon dont le président Evo Morales utilise justement la notion d'amérindianité, le fait que, par exemple, qu'il préconise que les horloges tourne à l'envers, hein, si vous voulez. C'est aussi une façon de préserver son pouvoir. C'est aussi, il y a un mode de pouvoir qui repose sur l'idée de la pureté amérindienne, qui est utilisée, qui a été utilisée par Chavez, qui a été utilisée par Evo Morales et qui est utilisée aussi en Équateur.
Très très rapidement, je casse mon micro, Jean-Louis Hamsel. Qu'est-ce qui se joue alors pour prendre les classes aisées en pays occidental dans l'évocation aujourd'hui, je le disais en tout début d'entretien, du métissage dans, vraiment très prosaïquement, toutes les collections d'objets pour habitat, toutes les collections de vêtements avec motifs ethniques. Qu'est-ce qui se joue pour nous à travailler ce métissage-là comme quelque chose de glorieux?
Je crois que c'est un mode de distinction justement pour des couches sociales qui se veulent ouvertes à la globalisation, à la mondialisation, etc. Et qui veulent aussi se distinguer par ce biais peut-être du pecus vulgum, enfin du populaire, qui lui, au contraire, on l'a bien vu aux dernières élections européennes, revendique une pureté de l'identité française, même s'il ne s'agit pas d'autochtones par rapport à des étrangers. Parce que ceux qui revendiquent le plus, en général, la pureté de l'identité française sont les avant-derniers arrivés par rapport aux derniers arrivants.
Mais c'est ceux dont vous dites qu'ils ne jouissent pas de la souplesse. Et on en revient à une forme de précarité.
Je dis, ils ne jouissent pas de la souplesse. Oui, effectivement. Ils sont...
Ils s'accrochent aux poteaux qui peuvent, peut-être.
En tout cas, ils se l'imaginent. Ils s'imaginent que c'est la solution pour régler leurs problèmes.
À cette heure-ci, 16h56, beaucoup plus tard que d'habitude, Michel Favori nous lit la poésie de Piero Bigongiari, poète italien donc, dont la traduction est assurée par Antoine Fungaro. Recueil ni terre ni mer, on écoute.
Avec son bec de sel. Avec son bec de sel, l'hirondelle frappe le mur. J'attends. Ni clairvoyant, ni sûr, entre deux messages, de voir tomber le mur de sable. J'attends le gage de mon jour futur. Ma maison de sel, aux vols océaniques, ne s'est peut-être pas envolée. Elle m'attend, de la rue du vent jusqu'au rail luisant, où un enfant mécontent gonfle ses narines. Le harpon a pénétré dans la chair molle du poisson, le vent a pénétré dans le sable fin qui danse devant la mer qui écume.
J'entends Jean-Louis Hamsel sur vos conseils, quelques notes trop courtes, mais c'est de ma faute. J'ai voulu aller au bout de la discussion de Vincent Segal et Balaké Sissoko. Ils jouent un morceau qui s'appelle Mama FC, autrement dit Maman France Culture évidemment. Et c'est disponible sur le disque Chamber Music pour compléter l'écoute qui sera ici beaucoup trop courte. Jean-Louis Hamsel, je rappelle le titre de ce livre, Logique métisse au pluriel, paru en poche dans la bibliothèque Payot, et d'un livre paru en 2005, Branchement pluriel, là aussi, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup avec nous. Pour écouter cette émission, franceculture.fr fonctionne parfaitement. Vous pourrez vous abonner au podcast de l'émission et le mélanger avec toutes les autres émissions. Elle s'appelle Pas la peine de crier et à l'intérieur, Poème du jour, Polaroid et Bibliothèque. Pour nous écrire, un formulaire fonctionne parfaitement. Nous vous remercions d'ailleurs pour les mots que vous y déposez. Aux manettes aujourd'hui, c'était Élise Le. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron, Romain Debec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel.